qui va être intéressant à suivre aussi, c'est ce qui va se passer chez les étudiants, parce qu'à la veille de la rentrée scolaire, ça se passe ces jours-ci au Cégep, début septembre à l'université. Les étudiants ont bien l'intention de se mobiliser pour dénoncer la hausse des droits de scolarité qui a été annoncée par le gouvernement de Jean Charest. Et selon le plan annoncé dans le dernier budget, les étudiants universitaires vont devoir débourser 75% quand même de plus d'ici 5 ans. Les droits de scolarité et les frais obligatoires atteindrait 4 700 $ en 2016. Alexandre Touchette a rencontré des étudiants qui campent devant les bureaux du ministère de l'Éducation à Montréal depuis le début de l'été. Les militants préparent leurs moyens de pression et promettent un automne, justement, très chaud.
Hey, pour de vrai, ça fait une heure que ça boue quand même.
Là, il y a des pâtes dedans.
Dans un abri cuisine installé sur le gazon en face des bureaux du ministère de l'Éducation à Montréal, une dizaine d'étudiants partagent un spaghetti agrémenté de saucisses hot dog. Des militants qui se relaient depuis 13 fins de semaine pour occuper un modeste campement qui ne compte qu'une seule tente, la limite imposée par la ville. Mais pour la dernière semaine avant la rentrée des cégeps, les étudiants ont décidé d'occuper leur campement 24 heures sur 24.
Là, tu vas être le testeur, là, tu sors vite.
Ah oui, j'allais dire lance-le au plafond, mais lance-le pas au plafond.
Les associations étudiantes préparent leur stratégie pour dénoncer la hausse de 75% des droits de scolarité, une augmentation progressive qui fera grimper les frais annuels à 4 700 $ d'ici 2016. Pour se mettre en appétit, ils réécoutent une entrevue diffusée le matin même sur les ondes de Radio X à Québec. Lié au bureau Blouin, croise le fer avec l'animateur Dominique Moret, au grand plaisir de ses collègues qui commentent la performance comme un match de hockey.
En plus de ça, ben, les gens comme vous, comme moi, on va être pognés pour justement là, avec les finances publiques qui vont mal, avec des fonds de retraite qui sont vides, avec l'environnement qui est tout croche. Puis moi, je pense justement qu'il faut donner à tous les jeunes du Québec la chance de s'éduquer, peu importe le revenu qu'ils ont.
On ne paie pas assez. Hein? Ça vaut cher, une bonne formation universitaire.
Ben, on l'a fait en mars, on a calculé l'année dernière que les étudiants, ils reversaient 5,3 fois l'argent que le gouvernement leur avançait avec des droits de scolarité abordables. Ils remboursent 5,3 fois l'État une fois qu'ils ont versé leurs taxes.
Question
leurs
simple, êtes-vous prêt à faire votre part?
Ben, on l'a fait en mars, je voulais déjà démontrer qu'on payait déjà 2-3 fois plus.
Les propos tenus sur les ondes de Radio X enragent Stéphanie Tremblay. Mais la jeune étudiante est bien consciente que malgré les déboires de Jean Charest, la bataille de l'opinion publique est loin d'être gagnée.
C'est l'essentiel de notre travail, là, en fait, là, de rallier le plus de gens derrière nous puis pour faire passer nos positions. En fond, plus il y a de gens qui vont être contre cette hausse-là, moins il va avoir le choix de réagir à cette question-là. Sa cote de popularité a pris un dur coup quand même ces derniers temps, surtout pendant l'été ou printemps. Fait que je pense que ça peut jouer en notre faveur. Là.
Les étudiants font-ils leur juste part? C'est la question qui revient toujours à la surface lorsque l'on compare le Québec au reste du Canada. Une année de scolarité universitaire coûte présentement 2 900 $ au Québec, alors que les Ontariens paient en moyenne plus du double, soit 6 300 $. Une différence qui entraîne un manque à gagner de 400 millions de dollars dans le système universitaire québécois. L'an dernier, la ministre de l'Éducation, Lynn Beauchamp, expliquait que ce sous-financement était la principale cause de la hausse des droits de scolarité.
Les universités ont raison de dire qu'elles bénéficient d'un moins haut financement que d'autres universités au Canada. Et quand on regarde d'où provient la problématique de financement, on s'aperçoit que le gouvernement du Québec, par les impôts des contribuables, qui gagnent une moyenne de 35 000 $ par année, assume 65 % du budget des universités, alors qu'ailleurs au Canada, on tourne plus autour de 55 %. Là où on peut voir des différences, c'est au niveau de la contribution des étudiants et au niveau de la part du secteur privé, et notamment du côté des universités francophones au Québec.
Un sous-financement qui menace la qualité de l'enseignement au Québec et qui nuit au recrutement de professeurs de haut niveau, comme l'expliquait l'an dernier le recteur sortant de l'Université de Montréal, Luc Vinet.
Il y a deux facteurs, les salaires que vous payez et le nombre de personnes que vous payez avec cette masse que vous avez. Donc, on en a moins, on a moins de personnes. Et aussi, on les paie souvent moins, donc on a de la misère à les garder ou à les faire venir. Ça, c'est un des facteurs. L'encadrement aussi est plus déficient. Nos bibliothèques, nos outils de recherche, on a moins de laboratoires. La qualité est là, mais on est à risque d'offrir des formations qui sont moins compétitives. Et on est au point de se poser la question, vous et moi, où devrions-nous recommander à nos enfants d'aller étudier?
Les associations étudiantes dénoncent le discours des recteurs et affirment que la solution passe par une meilleure gestion des budgets alloués par l'État. Léo Bureau-Blouin est président de la Fédération étudiante collégiale.
Mais je pense que les recteurs doivent faire le ménage dans leurs propres cours avant d'en demander plus aux contribuables et aux étudiants. En ce moment, on s'apprête, les étudiants à verser à peu près un demi-milliard de dollars supplémentaires dans les universités au courant des prochaines années. Je prends deux exemples bien connus. Le fameux îlot voyageur à l'UQAM, qui est un bâtiment immobilier qui n'a jamais vu le jour. Coût pour les contribuables, 450 millions de dollars. À l'Université de Montréal, ils ont acheté le 1420 Mont-Royal, qui était censé être un bâtiment pour l'université, qu'ils ont dû revendre à perte. Coût pour les contribuables, 60 millions de dollars. On additionne ces deux choses-là, on est rendu à un demi-milliard, là. Donc, je veux dire, si le gouvernement, ce qu'il voulait, c'était vraiment assainir les finances publiques et financer adéquatement les universités, il aurait commencé par demander aux recteurs de faire leur part. Je pense que si les universités voulaient vraiment être plus compétitives, ils commenceraient par regarder dans leurs propres cours.
Dans ce débat sur la hausse des droits de scolarité, les étudiants ont des alliés. La position du gouvernement et des recteurs fait bondir Simon Tremblay-Pépin, chercheur à l'Institut de recherche et d'information socio-économique.
C'est assez incroyable que les recteurs maintiennent ça, en fait, parce que l'université au Québec est probablement une des mieux financées à travers le monde. C'est ça qui est le plus saisissant dans cette prise de position-là. C'est que vous regardez les statistiques de l'OCDE. Donc, combien on investit en éducation par rapport à notre PIB. Le Québec est le troisième État au monde après les États-Unis et la Corée du Sud à investir le plus par rapport à son PIB en éducation. Vous regardez toutes les dépenses confondues, donc le privé, les étudiants et les gouvernements, combien on met d'argent par étudiant au Québec par rapport aux autres provinces. Le Québec est au-dessus de l'Ontario et au-dessus de la moyenne canadienne. Et là, après ça, on va nous dire, nous sommes les parents pauvres, on n'a pas d'argent, etc., etc. C'est pas vrai. L'université n'est pas sous-financée, elle est mal financée.
Les universités sont mal financées, selon les chercheurs de l'IRIS, parce que trop de subventions sont accordées à la recherche appliquée, des fonds de recherche qui profitent aux entreprises privées au détriment de l'embauche de professeurs et de l'amélioration des services aux étudiants. Mais au-delà de la qualité de l'enseignement, la question centrale est de savoir si la hausse des droits de scolarité réduit ou non l'accessibilité aux études universitaires. Les gens comme Yuri Chassin de l'Institut économique de Montréal affirment que cet impact est minime.
Essentiellement, ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que, oui ou non, une augmentation des frais de scolarité entraîne une baisse de participation universitaire ou, inversement, une diminution des frais de scolarité entraîne-t-il une hausse? Et les études sur la question montrent que l'effet est très faible. Et ce qui est intéressant, c'est que cet effet-là peut être compensé par l'aide financière. Et c'est vraiment ça qui est important de retenir parce qu'évidemment, quand on regarde que les taux de participation aux études universitaires et les frais de scolarité, on prend que deux facteurs, alors qu'il y a beaucoup de facteurs qui influencent le taux de participation, pas que les frais de scolarité. Donc, scientifiquement, là, pour être sûr puis être sur des bases solides, il faut regarder plusieurs facteurs. Et il y a des études qui ont été faites qui montrent effectivement que la participation, elle n'est très, en fait, elle est que peu influencée par les frais de scolarité. Il y a une bonne raison à ça, hein, c'est que contrairement, dans le fond, à des biens de consommation courants où le prix influence beaucoup l'idée de quelqu'un d'acheter ou non, les études universitaires, c'est pas un bien de consommation, c'est un investissement. Et c'est rentable. Et c'est là qu'il est important, dans le fond, de voir que le coût des études universitaires, on l'absorbe parce qu'on gagne davantage plus tard. Et c'est fantastique, dans le fond, de savoir qu'on peut acheter pour 2 à 3 000 par année un billet de loterie qui va être gagnant à peu près à tous les coups, puisqu'en moyenne, un étudiant qui a un diplôme universitaire va gagner 1 million de dollars de plus sur sa vie active.
Ces formations-là qui permettent l'enrichissement sur une période prolongée dans notre vie, les frais de scolarité devraient être beaucoup plus élevés que quelqu'un qui étudie en philosophie ou en études grecques.
Assis avec ses collègues militants devant le ministère de l'Éducation, Léo Bureau-Blouin réécoute son entrevue à Choix Québec. Il dénonce l'argument selon lequel la hausse des frais de scolarité ne réduit pas l'accès aux études supérieures.
Je suis d'accord des fois avec le fait que si tout le monde prenait une feuille de calcul Excel et disait « bon, mais c'est quoi le coût que ça me coûte, combien je vais m'endetter, ça va être quoi les taux d'intérêt, qu'est-ce que ça va me rapporter? » Je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui iraient à l'université, mais le problème, c'est que la vie, c'est pas le même, ça marche. C'est plate à dire, mais dans la vraie vie, l'étudiant que sa mère gagne 20 000 $ par année, puis tu es en train de dire qu'il faut s'endetter de 30 000, mais pour lui, c'est impensable. T'sais. Ou l'étudiant qui a le choix entre travailler maintenant dans la shop à 15 $ de l'heure ou de passer 4 ans à l'université à s'endetter pour un salaire de misère, pour ci, pour ça. Mais c'est dommage, mais il y a des gens qui vont faire des choix qui sont pas les bons pour la collectivité. Donc, moi, je pense qu'il faut favoriser des choix qui sont gagnants, donc d'avoir les meilleurs médecins puis tout ça. Mais j'ai l'impression que des fois, il y a des gens exactement qui confondent leur expérience personnelle. Tu sais, c'est sûr que si toute ta famille est à l'université, ça va de soi que tu vas y aller. Mais si ton père n'a pas été à l'université, si tu viens en région, si tu n'es pas trop riche, mais tu pars avec des obstacles qui sont beaucoup plus grands. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui oublient ça des fois.
La discussion sur l'impact de la hausse des droits de scolarité est inévitablement teintée par des points de vue idéologiques. Chacun des camps choisit les statistiques qui lui conviennent le mieux. Mais au-delà des querelles méthodologiques, Simon Tremblay-Pépin de l'IRIS affirme qu'il est indéniable que la hausse des droits de scolarité modifie le profil des étudiants qui accèdent aux études supérieures.
Prenons le cas de l'Ontario qui ont modulé les frais de scolarité en fonction du type de diplôme que vous faites. Par exemple, dans le cas de la médecine, ça coûtait beaucoup plus cher aller faire ça. Ça coûte maintenant en Ontario beaucoup plus cher d'aller faire sa médecine que de faire autre chose en disant c'est ce qui coûte le plus cher, puis c'est ce qui va vous rapporter le plus. Bien, ce qu'on a vu en l'espace de 3 ans, c'est que les cohortes ont changé de composition. Donc, tous les gens qui font en bas de 80 000 $ par année ont baissé leur fréquentation de médecine pour voir augmenter celle de ceux qui font plus de 80 000 $ par année. Donc, évidemment, ça change la composition, ça change la nature de l'université. L'université devient un lieu où des gens qui ont déjà de l'argent vont faire des emplois qui vont leur en donner encore. Alors, c'est évidemment, c'est déjà le cas. Dès aujourd'hui, encore aujourd'hui, on voit, c'est les gens les plus fortunés de la société qui ont la chance d'aller à l'université plus que les autres. Mais plus on augmente les frais de scolarité, plus on polarise, plus on radicalise cette tendance-là, plus on les diminue, plus on permet que tout le monde y ait accès. Là-dessus, les pays scandinaves, la France, les pays ouest européens le montrent bien quand ils sont dans un système de gratuité scolaire. Ils ont des taux de fréquentation universitaire des classes plus pauvres de la société, bien plus élevées que ce qu'on a ici.
Après avoir bien gratté le fond de leur chaudron de spaghettis, les étudiants se préparent à passer la nuit dans leur tente. Même si leur occupation estivale n'a pas soulevé un grand intérêt des médias, ils promettent de relancer une grande mobilisation cet automne. Pour Léo Bureau-Blouin, le combat est une question de justice entre les générations.
Ce qu'on aime bien, c'est se comparer, par exemple, à M. Charest, qui a été à l'école dans les années 80. À cette époque-là, ça coûtait 500 $ pour une année d'université. Si on met ça en dollars d'aujourd'hui, ça veut dire 1 700 $ environ. Nous, on en paye 2 700, comme je le disais, 4 700 d'ici 2016. Donc, on a l'impression de faire déjà en masse notre part. Et on se demande comment M. Charest peut regarder les étudiants dans les yeux et parler d'équité intergénérationnelle.
C'était un reportage d'Alexandre Touchette et ses moyens d'action pour contester les hausses de leurs frais de scolarité. Bien, les représentants des étudiants vont les rendre publics ce matin, là, dans quelques minutes. Ils veulent, entre autres, on le sait, tenir une grande manifestation nationale le 10 novembre prochain à Montréal. Et puis, comme on l'a entendu dans le reportage, ce ne sont pas tous les citoyens qui appuient leur cause. Les étudiants veulent faire la tournée des circonscriptions où les libéraux ont été élus de justesse là, en informant la population sur leurs conditions, l'impact de la hausse des frais de scolarité sur les finances publiques du Québec, en espérant que leur message soit entendu.